On va démarrer une série avec Pascal, en mettant donc en pause les livres de Marc et aussi le reste, sur le livre de Jonas. Et avec Pascal, on a choisi un titre. Pascal, c'est Jonas.
C'est Jonas, ou contester la bonté souveraine de Dieu. La bonté
du Dieu souverain, la bonté du Dieu souverain.
Du Dieu souverain.
Voilà.
Jonas, ou contester la bonté du Dieu souverain.
Voilà. Et je vais prier. Seigneur, je te remercie car tu bâtis ton Église. Seigneur, tu nous as laissé ta parole. Seigneur, ces textes sont là pour nous. Seigneur, même s'ils sont dans l'Ancienne Alliance, Seigneur, ça nous parle sur comment tu t'y es pris avec tes enfants, Seigneur, qui étaient bien récalcitrants. Et Seigneur, merci parce que ces textes nous parlent encore aujourd'hui. Veuille ouvrir notre cœur, notre intelligence à ta parole, afin qu'elle ait toute la place pour y germer, Seigneur, dans nos vies, pour mieux ressembler à Jésus. Seigneur, merci aussi d'être avec Paloma pour l'école du dimanche. Sois avec elle, soutiens-la, rends les enfants attentifs et qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Un certain Monsieur Cook a dit ceci. Un professionnel, c'est quelqu'un qui est capable de faire de son mieux à un moment où il n'en a pas particulièrement envie. Et quelqu'un dans la Bible n'avait pas du tout envie de faire son devoir, celui que Dieu lui avait dicté. Mais non seulement il n'a pas essayé de le faire de son mieux, mais il n'a pas essayé de le faire du tout en fuyant à l'opposé de ce que Dieu lui a demandé, de ses responsabilités. Il s'agit bien sûr de Jonas. Donc un personnage qui a vraiment existé et dont l'histoire est relatée dans le livre du même nom dans la Bible. Et Jésus lui-même cite Jonas dans les évangiles. Donc, son histoire, ce n'est pas une légende, c'est une histoire qui est vraie. Abordons-la comme cela. Et Jonas était un prophète israélite qui était versé dans les Écritures. Donc, je vous propose de lire le chapitre 1 de Jonas, de commencer par le chapitre 1. Je lirai donc le chapitre 1, les versets 1 à 17. Pour certains, le verset 17, c'est le début du chapitre 2. Pour d'autres, c'est la fin du chapitre 1, je lirai jusqu'au verset 17. Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'ai donné comme titre à ma prédication « La souveraineté de Dieu face à la désobéissance de l'homme ». La souveraineté de Dieu face à la désobéissance de l'homme. Avec cette vérité centrale qui ressort de ce texte, Dieu reste souverain malgré la désobéissance de l'homme. Il fait ce qu'il veut. Dieu reste souverain malgré la désobéissance de l'homme. Il fait ce qu'il veut. Et alors, comment se manifeste sa souveraineté, se manifeste dans ce récit? Comment se manifeste-t-elle? C'est ce que je vous propose de voir en deux points. Eh bien, premièrement, nous verrons que Dieu souverain sauve malgré notre désobéissance. Il sauve malgré notre désobéissance. Deuxièmement, nous verrons que Dieu souverain bénit notre obéissance. Donc, premièrement, voyons comment Dieu souverain sauve malgré notre désobéissance. Voilà donc Jonas, un prophète israélite, qui reçoit un appel de Dieu, appel clair, d'aller à Ninive pour y prêcher contre elle. Tellement sa méchanceté était grande. Et effectivement, les livres d'histoire confirment cela. Ninive, c'était la capitale de la Syrie, une très grande ville. C'était en Irak. On la situe près de la ville de Mossoul, en Irak, aujourd'hui. Ça rappelle des souvenirs. L'Irak, en tout cas, il s'est passé il n'y a pas si longtemps, vous savez, Daesh, qui n'hésitait pas à décapiter les gens. Eh bien, on peut comparer l'appel de Jonas. C'est comme si aujourd'hui, quelqu'un était appelé, de nos jours, était appelé à aller prêcher en Irak aujourd'hui, au groupe État islamique, à Daesh. Pas facile. C'était ce qui, en tout cas, Jonas avait donc cette mission d'aller prêcher à un peuple cruel. Cruel, avec un roi cruel aussi. Jonas était juif, et c'est le seul cas dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, où Dieu demande à un prophète de l'Ancien Testament donc d'aller prêcher à des non-juifs. C'est le seul cas dans l'Ancien Testament. C'est le seul cas, aller prêcher à des païens, des non-juifs. Et donc ça explique pourquoi Jonas était récalcitrant. C'est une des raisons qui explique pourquoi Jonas n'était pas du tout motivé à aller prêcher à des non-juifs. C'était une première à l'époque. Il n'avait pas du tout envie d'obéir à Dieu. Et effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désobéir délibérément à Dieu, en allant carrément dans la direction opposée à Ninive. Il va fuir à Tarsis, qu'on situe en Espagne. On situe très probablement en Espagne. À Tarsis, qui était, comme il le pensait, je cite une expression qui est citée deux fois, « loin de la face de l'Éternel ». Deux fois dans le verset 3. C'est recité un peu plus loin aussi. Il pensait aller loin de la face de l'Éternel. Est-ce que c'est possible de fuir loin du regard de Dieu? Aujourd'hui, on ne peut pas. On sait que Dieu est partout, il voit tout. On a beau se lui cacher, non. Il voit tout ce qui se passe dans nos vies. Il est au courant de tout. C'était surprenant parce que, de la part de Jonas, parce que c'était un prophète versé dans les Écritures. Et pourtant, eh bien, il pensait fuir loin de la face de l'Éternel. On peut en déduire que Jonas ne connaissait pas Dieu d'une façon personnelle. Il ne le connaissait pas si bien que ça, tout prophète qu'il était. Et dans tout ce livre, Dieu va se révéler à Jonas. C'est vraiment un livre pédagogique. Il va se révéler à Jonas à la fois qu'il est souverain, qu'il fait ce qu'il veut, et aussi à la fois qu'il est miséricordieux. Dieu révèle sa souveraineté et sa bonté, sa miséricorde dans tout ce livre. Il l'a révélé à Jonas, on va le voir tout au long du parcours du livre, dans cette série, et croyons bien qu'il veut le faire aussi avec nous. Qu'on le connaisse comme ce Dieu qui fait ce qu'il veut, et qui fait grâce. Jonas donc embarque sur un bateau. Il paye même son voyage pour fuir. Il n'hésite pas à mettre la main dans le porte-monnaie pour fuir dans la direction opposée. C'était donc une désobéissance préméditée, calculée, bien consciente. Ce n'était pas un péché par omission, c'était vraiment prémédité. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Dieu, le Créateur, celui qui a fait les cieux et la terre, fait souffler une tempête sur la mer. Voilà donc le jugement de Dieu qui s'abat sur le bateau qu'a pris Jonas. Mais Jonas, il n'était pas tout seul dans ce bateau. Il y avait les marins avec lui. Le jugement de Dieu s'abat non seulement sur Jonas, mais sur tout l'équipage à cause de la désobéissance d'un seul homme. Et c'est d'autant plus dramatique que Jonas le savait. Il savait que cette tempête venait de Dieu. Il en était conscient. Et c'est d'autant plus surprenant et dramatique qu'il le sait. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va descendre à fond de cale pour faire la sieste. Il ne se soucie pas du sort des marins. Tranquillement la sieste, indifférent au sort des marins. Alors on peut se poser des questions. Est-ce qu'il essayait de fuir sa conscience qui devait le tourmenter, on suppose. Pendant que les marins païens, eux, ils invoquaient chacun leur dieu. Ils avaient chacun leur dieu. Alors ils se disaient, lui, il a aussi son dieu, lui, Jonas. Hey, « Jonas, réveille-toi, ça ne te fait rien de voir périr ces marins. » Alors, le pilote demande alors à Jonas d'implorer son Dieu. Verset 6. « Peut-être que lui pourra faire quelque chose, puisque tous les autres n'ont rien pu faire. Peut-être que le Dieu de Jonas pourra faire quelque chose. » Jonas, un prophète juif, versé dans les Écritures, se voit rappelé à l'ordre par des païens. C'était pas très glorieux. Et nous, chrétiens, qu'est-ce que ça nous fait de croiser des gens qui se perdent, qui ne connaissent pas Jésus ? Est-ce qu'on dort paisiblement dans notre confort ? Ou bien nous, croyants chrétiens, comment réagissons-nous lorsque nous sommes repris par un non-chrétien, par un païen ? À juste titre, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'est arrivé. J'ai un petit témoignage là-dessus. Il y a quelques années, je devais transporter des enfants en difficulté dans une IME. Hein. Je faisais la tournée dans un minibus pour aller les chercher et pour les déposer à l'IME, dans un centre spécialisé. Et donc le matin, j'avais commencé ma tournée. Et voilà que j'arrive en trombe chez l'un des enfants parce que j'avais pris 10 minutes de retard. Et je voulais être à l'heure à mon rendez-vous. J'avais 10 minutes de retard par rapport à l'horaire que j'avais annoncé au papa de l'enfant. La veille. Sauf que le papa m'a vu arriver en trombe dans le minibus, avec les enfants à l'intérieur du minibus. Il m'a vu arriver. J'ai pris le virage, vraiment, j'étais content d'arriver, d'avoir rattrapé mon retard. Mais lui m'attendait. Il m'a pris à part. Et ce n'était pas quelqu'un de croyant, parce que j'ai su en discutant avec son père, avec son fils, pardon, qu'il regardait des films d'horreur, bref, il n'avait pas l'apparence d'un chrétien. Pourtant, il m'a vu arriver à une vitesse inquiétante. Il m'a vu rentrer dans sa rue. Vous roulez trop vite, m'a-t-il dit, et sur un ton manifestement en colère. Alors ça ne m'a pas plu sur le moment. Comment ce gars-là, il n'est même pas chrétien, il n'a pas l'apparence d'un chrétien, moi qui suis chrétien, me faire reprendre par quelqu'un qui ne l'était pas ? Mais il avait raison. Il avait raison. Mieux vaut arriver avec un peu de retard que de risquer un accident avec les enfants à l'intérieur. J'avais compris la leçon. Oui, Dieu avait parlé par un non-croyant. Mais revenons à Jonas. Dieu est derrière les événements. Dans tout ce livre-là, Dieu est derrière tout ce qui se passe. Dieu est souverain et il a un plan pour Jonas et pour les marins, puisqu'ils sont dans le même bateau. Jonas et les marins sont dans le même bateau, sous la tempête. Parfois, vous pouvez être dans le même bateau quand vous êtes au travail. Vous subissez les mêmes difficultés que vos collègues. Pardon. Alors les marins tirent au sort pour savoir qui leur attire ce malheur. Et le sort tombe sur Jonas. Jonas qui ne nie pas, il ne s'esquive pas. Alors il répond aux marins qu'il est hébreu et qu'il craint Dieu. Qu'il craint Dieu, le vrai Dieu, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre, selon son expression. Le Dieu créateur. Il leur dit même qu'il fuyait loin de la face de Dieu. Il leur a dit, verset 9-10. Hein. Alors là, on ne comprend plus très bien. Jonas, un prophète versé dans les Écritures, qui dit craindre Dieu, il avoue craindre Dieu, et il ose lui désobéir en fuyant délibérément dans la direction opposée. Quelque chose qui ne va pas là. Craint Dieu. Connaissait-il vraiment son Dieu ? Connaissait-il vraiment son Dieu ? Oh bien sûr, il a été instruit certainement à l'école rabbinique, il connaissait plein de versets bibliques, mais connaissait-il vraiment son Dieu ? Ou alors croyait-il qu'il est seulement le Dieu des Hébreux, tout en recitant ce qu'on lui a toujours appris, que Dieu est le Dieu des cieux qui a fait la terre et la mer, que Dieu est le Dieu créateur. Alors c'est un peu court comme prédication. Jonas s'est présenté, on peut prendre ça comme une prédication. Le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Peut-être que les marins n'avaient jamais entendu cela. Pourtant, Jonas vient de faire là une confession de foi, qui va changer littéralement la vie des marins. Et moi, ça m'encourage dans l'évangélisation, parce que parfois on se dit, oulala, je ne suis pas doué, je ne vais pas trouver mes mots, je vais balbutier. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jonas ? Il a confessé que Dieu est le Dieu créateur. Et parfois, ça suffit, parce que là, ça va suffire. Parfois, il en faut peu pour convaincre les gens à qui on parle. Bien sûr qu'on veut leur parler de Jésus dans l'Évangile, mais déjà leur parler de la création, leur faire réfléchir sur ce qu'ils voient. Parlez-leur des merveilles de la création. Ça fait réfléchir. On peut le voir, chacun peut le voir avec ses yeux. Et les enfants sont sensibles à la création. Montrez-leur. Tu vois cette fourmi, c'est Dieu qui l'a créée. Tu vois l'éléphant, c'est Dieu qui l'a créé. Tu vois toi, c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui nous a créés parce qu'il nous aime. Même quelqu'un qui n'a aucun arrière-plan religieux, qui ne va jamais à l'église, mais qui se donne la peine d'observer la nature dont il fait partie, peut comprendre qu'elle est issue d'un créateur intelligent, au-dessus de tout, d'un Dieu souverain qui est au contrôle de sa création. Ça peut effectivement être le déclencheur de quelque chose, du Dieu qui va se passer, qui est le salut, lorsqu'après ils vont entendre parler de Jésus. Les marins, tout païens qu'ils étaient, demandent alors à Jonas, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Il lui reproche ses manquements et sa désobéissance envers son Dieu. Ils ont chacun leur Dieu. « Pourquoi as-tu fait cela ?» Les païens, les non-chrétiens reprennent Jonas. Alors, ils ont certainement pensé à éliminer Jonas, mais ils ont des scrupules à le faire. Ils ont des scrupules à tuer Jonas pour calmer la tempête. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils lui laissent le soin à lui de prononcer sa sentence. Verset 11, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Ils y mettent la forme, les marins. Ils ne veulent pas le tuer. Ils lui demandent à Jonas de prononcer sa sentence. Alors Jonas propose aux marins de le jeter dans la mer pour que celle-ci se calme. Il sait que c'est lui qui a causé cette tempête. Et voilà, c'est la solution effectivement qui va marcher. Alors, ce n'est pas une apologie du suicide, hein. Ce n'est pas du suicide là que fait Jonas. Pourquoi ? Parce que Jonas laisse aux marins le soin de décider de son sort. Ils hésitent quand même, ils ne veulent pas tuer Jonas. Mais c'est le seul moyen de salut. Alors effectivement, eh bien, ils vont le jeter à la mer, ils ont la permission de Jonas. Et que s'est-il passé juste avant ? Avant de le jeter à la mer, il s'est passé quelque chose qui a changé leur vie. Ils ont prié. Ils ont prié non pas leur Dieu, chacun leur Dieu, mais le vrai Dieu. Ils ont prié le Dieu de Jonas. Verset 14, ils invoquèrent l'Éternel. Ils ont prié le Dieu de Jonas, le vrai Dieu. Alors, ils ont prié pour ne pas avoir à subir le châtiment divin de tuer quelqu'un, d'avoir à jeter Jonas à la mer. Alors, est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à la conversion des marins ? Oui, certainement. La conversion au seul vrai Dieu. Et pour ôter tout doute, eh bien, lorsque la mer s'est calmée, qu'est-ce qu'ils font les marins ? Après avoir jeté Jonas à la mer, qu'est-ce qu'ils font ? Verset 16, ils ont offert des sacrifices et ils firent des vœux à qui ? À l'Éternel. Le Dieu de Jonas est devenu leur Dieu. Ils se sont convertis. Le Dieu de Jonas, le seul vrai Dieu, est devenu leur Dieu. Dieu qui a encore et toujours tiré son épingle du jeu, comme toujours. Et ce, malgré la désobéissance préméditée de Jonas. Il a désobéi, ça ne va pas empêcher Dieu de sauver des gens, dans lesquels Jonas a emmené ces gens dans la tempête. Et Dieu va en profiter pour les sauver. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu ? Il est et il reste et restera toujours souverain. Quels que soient nos choix, bons ou mauvais, bons ou mauvais, des marins païens se sont convertis au seul vrai Dieu et sont sauvés en reconnaissant de leur propre bouche que Dieu fait ce qu'il veut. Verset 14. Fait ce qu'il veut, Dieu est souverain. Mais Dieu est non seulement souverain, mais il est bon. Il est miséricordieux. Parce qu'il va arrêter Jonas dans ses désobéissances. Il va le rattraper, il va le poursuivre, il va l'arrêter dans sa désobéissance. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu envoie un jugement, et c'est toujours le cas dans l'Écriture, d'abord il annonce qu'il va envoyer un jugement pour que les personnes puissent revenir, se repentir. Lorsque Dieu envoie un jugement, en l'occurrence ici la tempête, eh bien il prépare aussi le moyen de salut, le moyen d'en sortir. Et c'est ce qui se passe pour Jonas. C'est pas un hasard si au moment même où les marins ont jeté Jonas à la mer, un gros poisson passait par là. Alors on peut supposer que c'est un cachalot, une baleine, mais c'est ce qui s'est passé. Juste à ce moment-là, Dieu, dans sa souveraineté, a envoyé un moyen de salut pour Jonas. Tout a concouru à son salut. Oui, Dieu fait grâce dans sa souveraineté et il n'aime pas être obligé de punir ses enfants. Oh, il annonce le jugement. Jugement qui arrive. Et il prépare le moyen de salut dans sa bonté, dans son amour. Dieu fait grâce dans sa souveraineté. Il n'aime pas être obligé de punir sa créature. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Alors voilà donc Jonas dans le ventre du gros poisson. Encore vivant. Les sucs gastriques ne l'ont pas digéré. Il va y rester 3 jours. Il y a de l'espoir pour Jonas. Gardons ça pour plus tard, la suite de l'histoire. J'aimerais aborder mon deuxième point, c'est que Dieu souverain bénit notre obéissance. Dieu souverain bénit notre obéissance. Plus tard donc, Jésus a cité Jonas. Et il s'est même comparé à lui. En Matthieu 12, 41, il est écrit, voici, Jésus a dit donc, voici, il y a ici plus que Jonas, en parlant de lui-même. Et ça serait intéressant, c'est intéressant de comparer Jésus et Jonas. Quelles sont les similitudes et les différences entre Jésus et Jonas? Dans le récit de Jonas, les marins, ils ont reconnu l'œuvre du Dieu créateur, le Dieu de Jonas. Lorsque le calme est revenu, eh bien, ils ont reconnu que ça venait du vrai Dieu. Et ils l'ont adoré comme Dieu créateur. Ils l'ont adoré. Et dans les évangiles, on trouve un récit, vous y avez peut-être déjà pensé, un récit qui nous rappelle ce récit, le récit de la tempête apaisée. Un récit qui trouve des similitudes avec Jonas 1. Il est aussi question d'une tempête et d'un bateau menaçant de chavirer sur lequel se trouvent Jésus et ses disciples. Et je vais le lire, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 27. Gardez un doigt sur le livre, chapitre 1 de Jonas. Donc, Matthieu 8, 23. Il, donc Jésus, monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ses hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Des similitudes avec le récit de Jonas. Comme Jonas, Jésus dormait pendant la tempête. Mais il va montrer qu'il est bien plus grand que Jonas. Qui est capable de calmer un vent violent et des flots déchaînés, sinon celui qui les a créés, c'est-à-dire Dieu lui-même? Jésus vient de montrer à ses disciples qu'il a ce pouvoir, ce qui a provoqué un grand étonnement chez eux, mêlé de crainte, d'admiration. Un grand étonnement. Il y a de quoi. Jésus venait de faire la démonstration, de leur faire la démonstration qu'il est Dieu lui-même, le Créateur, qui a pouvoir sur tous les éléments. Jonas avait payé pour désobéir à l'Éternel. en prenant un bateau dans la direction opposée à celle que Dieu lui indiquait. Les marins, lorsqu'ils se sont convertis, ils ont entendu que, effectivement, ils ont compris que Dieu, le Dieu de Jonas, a créé les cieux, la terre et la mer. Il y a, je crois aussi, quelque chose d'autre qui a dû les toucher. C'est que Jonas, il était prêt à donner sa vie pour calmer la tempête. Certainement que l'attitude sacrificielle de Jonas, qui était prêt à donner sa vie pour calmer la tempête, a joué aussi un rôle dans la conversion et le salut des païens. Ils ont été touchés. Toutefois, on peut se poser cette question. Était-ce vraiment pour sauver la vie des marins que Jonas a demandé qu'on le jette à la mer? Est-ce que c'était vraiment de l'altruisme sacrificiel, comme on pourrait le penser? La suite du livre confirmera que pour Jonas, donner sa vie était plutôt un échappatoire pour ne pas aller prêcher à ces marins de Ninive, à ces païens de Ninive, si cruels. Plutôt mourir, plutôt crever, je paraphrase pour employer une expression aujourd'hui, que d'aller prêcher à ces païens qui ne connaissent pas Dieu, c'est cruel. Plutôt que d'aller prêcher la repentance à ces païens. Si Jonas avait payé pour désobéir à Dieu, Jésus, lui, il a payé de sa propre vie pour obéir jusqu'au bout à Dieu son Père. Il a donné sa vie sur la croix pour porter les péchés non seulement des Juifs, non seulement des Ninivites, mais aussi les nôtres et ceux du monde entier, et pour sauver même le pire des pécheurs qui croient en lui et qui se repent. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jésus est resté 3 jours dans le tombeau et Dieu l'a ressuscité. Le tombeau était vide. Preuve que son sacrifice était suffisant pour que nos péchés soient pardonnés. Le prix payé a été suffisant. Alors oui, lorsqu'on accepte Jésus, on rentre dans la famille de Dieu, on est pardonné de ses péchés, on est lavé de nos péchés. Mais une fois qu'on est devenu chrétien, lorsqu'on a accepté le salut que Jésus nous a acquis, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Pour être sauvé, Jésus a tout payé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que Dieu nous demanderait quelque chose auquel obéir? Oui, il nous demande tout simplement de lui obéir. Et puisque Dieu fait ce qu'il veut, même les païens l'ont reconnu, les marins païens, puisque Dieu fait ce qu'il veut, autant lui obéir. Parce qu'il y a des bénédictions à lui obéir. Et ne pas lui obéir serait passer à côté de ces bénédictions. Que se passe-t-il si on désobéit à Dieu? Jonas, un prophète qui était versé dans les Écritures, il avait désobéi à Dieu. Est-ce que c'est possible à un chrétien aujourd'hui de désobéir délibérément à Dieu? Alors, c'est à chacun de répondre. Je laisse à chacun le soin de répondre pour lui-même. Ça m'est arrivé de désobéir. Est-ce que nous avons du zèle pour parler de Jésus à ceux que nous n'aimons pas, qui ne sont pas aimables avec nous, qui nous font comprendre qu'on est de trop? Des gens qui nous semblent très durs. Ou est-ce que nous faisons comme Jonas? Nous fuyons. Ou alors nous changeons de trottoir. Ce sujet-là, c'est pas pour eux. Ou bien, pensons-nous, comme échappatoire, « Oh, Dieu fera bien mieux que moi. Il fera bien mieux que moi pour parler à un tel. C'est son œuvre, après tout. » Mais on oublie que Dieu peut se servir de toi, de moi, pour parler à des gens qui sont difficiles. Pour accomplir son œuvre, il peut se servir de toi, et il veut se servir de toi, et de moi, de nous, pour avoir une parole, quand c'est nécessaire. Pour reprendre quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Et puis, notre désobéissance peut avoir des conséquences sur notre entourage, même en tant que chrétien. Le jugement de Dieu s'est abattu non seulement sur Jonas, mais sur tout l'équipage. Il y a eu des dégâts collatéraux, on peut dire, sur tout l'équipage, à cause de la désobéissance d'un seul homme. Notre désobéissance peut avoir des conséquences. Et si on désobéit, est-ce que tout est fini? Non. pour ça que j'aime tellement ce livre de Jonas. L'histoire, toute l'histoire de Jonas montre que Dieu ne stoppe pas la relation avec quelqu'un qui lui désobéit délibérément, qui s'est éloigné de lui. Mais au contraire, Dieu va être présent. Il va agir pour le ramener à lui. Il ne va pas le lâcher. Pour le ramener à lui dans sa grâce souveraine. C'est ce qu'il fait, même lorsque nous avons l'impression d'échouer. Ah, c'est lamentable. J'ai raté. Mais Dieu ne lâche pas. Avec ses enfants, il ne lâche pas le morceau. Il ne nous lâche pas. Parce qu'il nous aime. Et il veut nous instruire et il veut nous amener plus loin. Alors soyons clairs, pour un chrétien, désobéir à Dieu ne lui enlève pas son salut. Jésus nous a acquis le salut à la croix et le prix est suffisant. Mais lorsqu'on désobéit à Dieu, on passe à côté de bénédictions que Dieu promet quand on lui obéit. Oui, l'obéissance peut nous coûter, on n'a pas envie de faire ça. Jonas, il n'avait pas envie d'obéir à Dieu. Mais lorsqu'on lui obéit, on est les premiers à voir les bénédictions que Dieu nous a mis en réserve. Oui, là, ça m'a coûté, mais ah, qu'est-ce que je suis content. Je l'ai fait. Ça ne m'a rien gagné de mon salut, mais quelle joie d'avoir obéi. Évidemment, on a besoin de lui pour obéir à Dieu. Alors, à chacun de choisir, de persister dans sa propre volonté, au risque d'endurcir son cœur, comme Jonas. Jonas, il n'en avait rien à faire des mains. Comme les pharisiens qui ne supportaient pas Jésus. À chacun de choisir de désobéir ou au contraire, de suivre la volonté divine qui est la meilleure pour nous, parce qu'il nous aime. Et je crois que notre obéissance nous gardera d'un danger qui est l'endurcissement. Quand on désobéit, le cœur risque de s'endurcir. Quand on obéit, on garde le cœur chaud pour Dieu. Notre obéissance nous gardera de l'endurcissement. J'aimerais terminer avec ce verset en Hébreux 4, verset 7, qui est répété plusieurs fois dans ce livre des Hébreux, que vous connaissez. Hein. Hébreux 4, verset 7. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais prier. Seigneur, comment ne pas t'adorer, Seigneur, parce que tu es souverain, tu fais ce que tu veux, oui, Seigneur, les marins païens l'ont confessé. Alors pourquoi te résister, Seigneur, puisque tu fais ce que tu veux. De toute façon, tu accompliras ta volonté, quelle qu'elle soit. Alors Seigneur, oui, je te demande un cœur pour moi, pour mes frères et sœurs, pour un cœur porté vers l'obéissance à toi, à ta parole. On a besoin de toi pour t'obéir, Seigneur. Sans toi, on n'y arrive pas. Mais fais-nous goûter, Seigneur, les joies de l'obéissance. Oui, Seigneur, d'abord, on a besoin de foi pour avancer avec toi, pour avoir la conviction que c'est ce que tu nous demandes. Et aide-nous à le faire, Seigneur, quand tu nous le demandes, et à goûter vraiment la joie qui découle de l'obéissance. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes tant. Et tu as montré, Seigneur, tu l'as montré dans ce que tu as fait avec Jonas, comment tu l'as instruit, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, malgré sa désobéissance. Merci encore, Père, d'être ce Dieu merveilleux qui nous aime tant. Seigneur, que nous soyons toujours à ton écoute et que vraiment on soit au diapason avec toi. Qu'on t'entende nous parler dans notre cœur, Seigneur, parce que tu parles par ta parole. Voilà. Mets en nous la conviction, les convictions de ce que tu veux qu'on fasse et qu'on le fasse, Seigneur. Ouais, donne-nous le vouloir et le faire. Et la foi pour le faire. On a besoin aussi, Seigneur. Merci, Père, parce que c'est toi qui le produis en nous. Sois loué. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus, en ton nom. Amen.
Amen.